Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français et également psychologue, et avec l'équipe de lycéens qui m'entoure, nous nous intéressons aujourd'hui à l'intelligence artificielle, son fonctionnement, son impact sur l'éducation et sur l'avenir des jeunes. Et au lieu de vous proposer deux émissions sur ce thème, l'une dans laquelle je recueille la parole des adolescents, l'autre dans laquelle ils interrogent un spécialiste, nous avons choisi d'expérimenter une nouvelle formule, en réunissant tout le monde autour du micro. Parmi les jeunes, c'est Armand, un élève de terminale, qui présentera avec moi cette émission.
Bonjour, je suis ravi de co-animer cette discussion autour de l'intelligence artificielle avec Inès, Rodrigue, Maximilien, Blanche, Yanely et avec Marin de Nébuet, conseiller en affaires publiques et en stratégie et enseignant. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser répondre à nos questions, je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir que nous avons réalisé sur ce sujet. Combien de fois par semaine vous utilisez ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle et dans quelle matière?
Alors déjà, le nombre de fois par semaine, ça dépend vraiment du travail que j'ai à faire. Mais je vais quand même essayer d'éviter d'utiliser. Mais quand c'est des informations qui prennent vraiment du temps à trouver, où il faut aller fouiller sur plein de différents sites, c'est vrai que prendre ChatGPT et lui demander, on a la réponse en une seconde et en plus, on peut lui demander les sources.
Je dirais que j'utilise ChatGPT une fois par semaine, plus pour les matières générales où il y a besoin de beaucoup d'informations, des dates, des noms, etc. Et c'est plus pour résumer mes cours.
Ça m'aide à synthétiser et quand j'ai pas le temps et que j'ai besoin d'une information qui prend beaucoup de temps à trouver, je vais aller sur ChatGPT.
Certains élèves utilisent l'IA pour leurs devoirs et préparer leurs contrôles. Est-ce que de manière générale, tu dirais que ça te permet de progresser ou est-ce qu'au contraire, t'as un peu un sentiment de tricher ou tu travailles moins quand tu utilises ChatGPT?
Ouais, faire un devoir, c'est beaucoup plus de la triche et c'est pas des sources fiables pour vraiment faire un devoir en entier. Donc je dirais que ouais, c'est pas très productif de faire un devoir maison, par exemple, sur ChatGPT ou quoi.
Pour organiser les idées, c'est super pratique parce que c'est vrai que ce qui est le plus compliqué, par exemple, dans les dissertations, dans les commentaires, c'est de créer un plan. Et donc, trouver les idées, je trouve que c'est pas le plus compliqué, mais c'est vraiment les rassembler.
Est-ce que t'as des moyens de savoir si une photo est générée par l'intelligence artificielle?
Je trouve que quand même, on peut discerner assez facilement parce que on dirait que c'est filtré.
Alors, au début, je pensais que je pouvais, mais ces derniers temps, vraiment, je suis tombé dans le panneau. Je suis tombé sur des photos vraiment sans contexte, mais c'est tellement, tellement réaliste que j'arrive même plus à discerner, donc je suis méfiant tout le temps.
En vrai, peut-être faire une recherche avec Google Images, sinon j'ai pas vraiment de moyens.
Vous êtes nés, les jeunes, avec Internet et des réseaux sociaux. En tant qu'élève, est-ce que vous avez vécu l'arrivée de l'intelligence artificielle comme une révolution? En quoi a-t-elle changé la manière, notamment, de faire vos devoirs?
Alors moi personnellement, j'ai vraiment vécu l'arrivée de l'intelligence artificielle, en tout cas de ChatGPT, comme une révolution, parce que ça, pour moi, ça a transformé mon rapport à Internet et notamment pour obtenir des informations. Donc maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, j'utilise beaucoup moins les moteurs de recherche et j'ai toujours en tête, à l'esprit, que si j'ai une question que je me pose, j'ai pouvoir avoir la réponse exacte avec une intelligence artificielle, une réponse qui sera parfaitement adaptée à la question que je pose. Alors qu'un moteur de recherche va nous donner des sites qui se rapprochent le plus des mots-clés dans notre question, mais on ne trouve pas forcément la réponse qu'on attend. Et pour mes devoirs, c'est la même chose, c'est que, notamment pour les mathématiques, on peut demander à ChatGPT de répondre exactement à notre question, notre exercice de maths, alors qu'avant, sur Internet, il fallait voir si l'exercice existait déjà et trouver la réponse ainsi. Donc, pour les devoirs, ça change également notre manière d'aborder les questions qu'on a.
Mais là, tu parles des mathématiques. Est-ce que vous avez l'impression que l'IA est performante dans toutes les disciplines?
Justement, je trouve qu'en mathématiques, j'ai vu une vraie évolution au niveau de l'intelligence artificielle, puisqu'à ses débuts, c'était très souvent erroné ce qu'elle pouvait faire. Et même si encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait parfait, je dois avouer que lorsque je dois trouver des corrections pour certains exercices, eh ben, je fais toujours appel à l'intelligence artificielle, qui peut évidemment se tromper, mais je dois avouer qu'elle reste assez performante en mathématiques, notamment pour proposer des corrections ou d'autres modes de résolution. Mais dans les matières plus littéraires, je la trouve un peu plus limitée et je suis souvent moins convaincu par ce qu'elle produit.
Moi, je suis d'accord avec Armand. L'année dernière, j'ai pu m'en rendre compte. Donc, on avait le bac de français, on avait beaucoup de décrits littéraires à effectuer. J'ai trouvé que les intelligences artificielles à notre disposition, comme ChatGPT, elles étaient très limitées, ou du moins pas adaptée aux attendus français. On remarque vraiment qu'il y a l'influence anglo-saxonne des développeurs de ces intelligences artificielles qui font que les réponses qu'on obtient ne sont pas vraiment justes et ne marchent pas dans notre système éducatif.
Marin, est-ce que vous pouvez nous dire si le terme d'intelligence est le mieux adapté pour décrire des logiciels générant des réponses comme ChatGPT ou DeepSeek?
Alors, avant de répondre à votre question, encore faut-il définir ce qu'on entend par intelligence artificielle. Alors, c'est un terme qui est assez récent, qui a été inventé en 1956 par un mathématicien qui s'appelle John McCarthy, lors d'un séminaire à Dartmouth. Et lorsqu'il a inventé le terme d'intelligence artificielle, c'était pour désigner une nouvelle discipline scientifique qui allait en fait s'atteler à étudier le fonctionnement d'intelligence artificielle pour ensuite permettre à des machines de le reproduire. Alors ensuite, cette discipline scientifique a connu des étés et des hivers. En fait, il y a eu des phases d'expansion et de progrès, et puis d'autres phases de retour en arrière. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle a fait un retour tonitruant sur le devant de la scène avec notamment ChatGPT. Et le terme d'intelligence artificielle désigne aujourd'hui à la fois une discipline scientifique, mais aussi les outils capables d'imiter des comportements humains, typiquement comme le raisonnement, la planification ou la créativité. Alors, juste aussi pour préciser, comment fonctionnent les intelligences artificielles que vous avez cité ChatGPT et DeepSeek. En trois grandes étapes, en réalité, elles sont entraînées sur des milliards de données pour détecter des schémas récurrents. Ensuite, elles calculent des réponses qui sont statistiquement les plus probables. Et enfin, elles ensuite prédisent les mots les plus logiques. À une différence près que ça, c'est le fonctionnement de ChatGPT. DeepSeek introduit une nouvelle façon de faire avec un apprentissage qu'on appelle par renforcement. Qui permet à l'aide de l'intelligence artificielle de raisonner par étapes, donc en fait d'imiter encore plus le fonctionnement d'une pensée humaine. Et vous avez tout à fait raison de poser la question de l'intelligence. Est-ce qu'on doit parler d'intelligence? Alors, il s'agit essentiellement de modélisation avancée du langage. Certains scientifiques disent que non, il faut pas parler d'intelligence artificielle. D'autres disent que oui, les débats sont ouverts. Moi, je me situe plus dans la catégorie des personnes qui disent qu'il ne faut pas parler d'intelligence artificielle, ça entretient une confusion. Notamment vis des personnes qui ne savent pas vraiment prendre de recul critique vis-à-vis de tout ça. Et j'insiste même aussi pour que ces débats autour de savoir est-ce que l'intelligence artificielle est réellement intelligente nous permettent de nous poser d'autres débats tels que qu'est-ce qu'en réalité l'intelligence et de nous ouvrir à d'autres formes intelligentes, notamment celles qui sont présentes dans le vivant, les plantes, les animaux, etc. Donc, ça s'inscrit aussi dans une prise de recul vis-à-vis de l'intelligence. Je vous invite à ce sujet à lire les travaux d'Alan Turing qui avait dit qu'en fait, l'intelligence artificielle allait sans doute nous interroger nous-mêmes sur ce qu'on entendait par intelligence.
Quels autres types d'intelligence artificielle existent-ils en dehors de l'IA générative de texte?
Alors, il y en a beaucoup d'autres. On peut citer la vision par ordinateur qui est utilisée notamment pour la reconnaissance faciale, la surveillance automatisée. On a aussi les systèmes de recommandation que vous trouvez dans tout ce qui est suggestion de contenu, par exemple, sur les plateformes de streaming. On a aussi les systèmes prédictifs qui sont beaucoup utilisés pour la prévision météorologique. Et on a aussi les assistants vocaux. Pour pas faire de jaloux dans les entreprises, citons Siri, Alexa, Google Assistant et autres.
Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les données de l'IA?
Alors, les données de l'IA, elles viennent de la créativité humaine et du savoir-faire intellectuel humain. En fait, elles viennent de bases de données massives qui incluent des produits culturels présents sur Internet, des documents publics, des publications scientifiques. Et en fait, les entreprises d'intelligence artificielle font ce qu'on appelle du web scrapping, c'est-à-dire qu'elles photographient à un moment donné toutes les sources qui sont disponibles sur Internet pour entraîner ensuite leur modèle à, comme je le disais, dans la phase première, c'est-à-dire récupérer et détecter des schémas récurrents dans des gros ensembles de données. C'est ce qu'on appelle le big data, qui a un enjeu central et décisif, parce qu'en fait, c'est celui qui permet vraiment de faire progresser les intelligences artificielles. Et ça pose énormément de problèmes, d'une part juridique, puisqu'il y a aussi la question du droit d'auteur, c'est-à-dire à qui appartiennent les contenus qui vont servir à entraîner cette intelligence artificielle, et est-ce qu'il n'y a pas une spoliation, par exemple, des auteurs? Je pense par exemple à tout ce qui est produits culturels, les livres, etc. Et aussi ça pose une question d'entraînement à la vie privée. Je pense notamment aux images qui sont collectées pour, par exemple, façonner des avatars numériques. Il y a énormément d'enjeux liés à tout ça.
On peut se demander en tant qu'élève, est-ce que nous devons nous méfier des réponses que génère l'intelligence artificielle aujourd'hui ? IA a-t-elle fait beaucoup d'erreurs ?
Non, alors vous devez systématiquement adopter un recul critique sur les résultats fournis par les intelligences artificielles, puisqu'en fait, les intelligences artificielles se trompent et peuvent aussi inventer des réponses. Alors généralement, on dit qu'il y a deux problèmes. Soit on dit qu'elles sont biaisées, soit qu'elles hallucinent. Alors lorsqu'elles sont biaisées, c'est généralement que il y a un problème dû à la représentativité des données qui ont été utilisées pour les entraîner. Et ça peut être le fait qu'elles soient, les données soient partielles, déséquilibrées ou qu'elles reflètent des préjugés culturels. Et lorsqu'elles hallucinent, c'est parce qu'en fait, elles inventent un contenu crédible sans avoir vérifié au préalable sa véracité. Et en fait, lorsque ça reste des outils, donc lorsque vous leur posez une question, elles doivent répondre et elles n'ont pas tendance à me dire à un moment « je ne sais pas, je ne comprends pas ». Et elles ont parfois tendance à inventer. Donc non, vous devez systématiquement avoir un recul, ne jamais avoir un rapport passif par rapport à l'information, qui vous a été donnée. Et ce qui soulève un autre enjeu vraiment fondamental dans le futur des intelligences artificielles, c'est comment est-ce qu'on arrive à maintenir et voire même à amener l'utilisateur à avoir un regard critique vis-à-vis de l'information qui lui est fournie. Parce que plus les utilisateurs seront passifs, plus ils prendront pour acquis les résultats qui leur sont donnés, et ça peut avoir des effets dramatiques sur le court, le moyen et long terme.
Les élèves, est-ce que il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent l'IA pour les devoirs à la maison et même en classe sans que nous, professeurs, nous nous en rendions compte? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous retient finalement de totalement plagier ChatGPT?
Alors oui, j'aurais tendance à dire qu'il y a une grande majorité des élèves qui utilisent l'IA de manière récurrente pour soit travailler chez eux ou en cours. Cependant, j'aimerais aussi dire que pour moi, il y a deux modes d'utilisation. Il y a un premier mode que je qualifierais d'intelligent, entre guillemets, qui serait de se servir de l'IA comme un outil pour, par exemple, se trouver des idées pour un exposé, mais qui est en opposition avec l'autre mode d'utilisation. Vous avez parlé d'un mode d'utilisation passif. Moi, je l'appellerais copier-coller. C'est-à-dire que c'est vraiment l'usage basique de l'IA de « je lui demande de faire mes devoirs pour moi ». Voilà. Là, on perd le sens de l'exercice. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que maintenant, en comparaison avec il y a par exemple 2 ans, on est beaucoup plus dans un mode d'utilisation intelligent en termes d'IA. Ensuite, je dirais que ce qui fait que les profs ne s'en rendent pas compte, c'est que peut-être qu'ils s'en rendent compte, mais qu'ils peuvent tout simplement pas le prouver. Ça, c'est un point. Et ensuite, au niveau des... qu'est-ce qui m'empêche, moi, de recopier juste ce que dit l'IA ? Déjà, c'est la véracité des informations. Elles peuvent halluciner, comme vous l'avez dit. Ou alors, il y a aussi une limite personnelle, c'est que j'ai tendance à me dire que si jamais on me donne un exercice, ça peut m'apporter quelque chose. Donc, si je demande juste à l'IA de le faire pour moi, bah, ça n'a plus aucun sens. Et la troisième limite, ce serait aussi le niveau des informations. Elles peuvent être vraies, mais est-ce qu'elles répondent totalement à la question? Ça, j'en doute.
L'année dernière, un tournoi de débat avait été organisé. Et j'avais assisté en tant que spectatrice pour soutenir une amie. Et à la fin du débat, elle devait aller demander une sorte de feedback, de retour sur sa présentation au jury. Et quand elle s'est adressée à un des membres de ce jury, il lui a dit que son texte était très bien rédigé, mais que elle n'avait pas du tout l'air à l'aise et qu'on aurait dit que c'était ni elle qui l'avait écrit, ni qu'elle l'avait déjà lu. Et elle m'a plus tard, dans la soirée, avoué qu'en fait, elle venait de le lire et qu'elle avait complètement oublié de le faire et que c'était complètement ChatGPT. Donc, j'ai trouvé que le jury avait vraiment un point de vue perspicace vis-à-vis de l'utilisation de ChatGPT à ce moment-là. À un autre moment, il y a plusieurs élèves qui avaient été aussi pris pour triche en contrôle parce que posant les questions du contrôle à ChatGPT, ils avaient utilisé des méthodes et un algorithme dans ce cas précis qu'on n'avait pas encore étudié en cours et qui, par conséquent, détonnait sur la copie. Donc, je dirais que la plupart du temps, c'est quitte ou double. Soit les professeurs s'en rendent complètement compte et ça se voit, sinon ça peut passer parfois à la trappe. D'ailleurs, Marin, est-ce qu'il existe des moyens pour les professeurs de savoir si un devoir a été fait par l'intelligence artificielle?
Alors non, pour l'instant, il n'existe pas de moyen de pour savoir à coup sûr si un devoir a été ou non rédigé avec intelligence artificielle. Néanmoins, on a beaucoup de détecteurs capables d'identifier en fait ce qu'on appelle les signatures linguistiques d'un texte généré par IA. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, les professeurs aussi disposent d'une expertise métier qui leur permet de détecter les copies générées par IA. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que parfois les étudiants oublient, c'est qu'un professeur parfois connaît, enfin souvent même connaît intimement en fait la façon de raisonner d'un étudiant, la façon de raconter, de structurer une copie, etc. Donc, l'outil technologique, même s'il n'existe pas encore, il existe des moyens quand même de savoir si les copies ont été rédigées par des intelligences artificielles. Plus largement, la question, elle pose aussi la question de l'avenir des devoirs. Est-ce qu'il ne faudra pas aussi réfléchir à développer d'autres nouvelles méthodes d'évaluation des connaissances, par exemple l'évaluation des raisonnements plutôt que des résultats? C'est une question ouverte.
Vous avez peut-être entendu cette question à notre micro-trottoir. On voudrait quand même avoir votre avis en tant qu'expert. Est-ce qu'il est possible de distinguer aujourd'hui une image générée par une intelligence artificielle? Je pense par exemple au panneau Hollywood qui a été montré en feu et vue par des millions de personnes alors qu'elle était totalement creuse.
Alors oui, il existe des moyens pour détecter une fausse image générée par intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'outils de détection là aussi de fausses images. C'est la première chose. D'autre part, il y a aussi des moyens et des méthodes pour détecter à l'œil nu une fausse image. Par exemple, le regard. S'il y a des personnes, généralement elles ont un regard vide ou asymétrique. Ça gère assez mal les fonds. Qui peuvent parfois avoir des problèmes de symétrie, etc. Donc il y a des choses qui sont déployables facilement pour identifier ça à première vue. Néanmoins, on constate quand même une marche en avant extrêmement importante de la technologie qui permet vraiment d'affiner les résultats et les images qui sont présentées. Donc voilà.
Les élèves, est-ce que vous avez peur de perdre en capacité d'organisation, de rédaction, de réflexion à force d'utiliser ChatGPT? De perdre, par exemple, en persévérance parce que l'IA, finalement, génère très rapidement la réponse?
Alors, non, j'ai pas peur personnellement de perdre des capacités parce que j'utilise l'IA uniquement pour les exercices que je qualifierais de faciles. Je vous donne un exemple. J'avais oublié que j'avais un débat à préparer sur la question pour ou contre le service militaire. 5 minutes avant de passer, je pose la question sur ChatGPT et je lui demande de me donner des données et des sources. Il l'a fait et en fait, ça me permet en très peu de temps de trouver des informations qui m'auraient mis du temps à trouver si jamais j'avais pas utilisé l'IA. Donc moi, je l'utilise essentiellement pour ça. Le reste, quand il s'agit de réflexion, par exemple pour une dissertation, là, je sais que il faut que ça vienne de moi parce que si jamais je m'entraîne pas à faire ces travaux, je n'y arriverai pas, par exemple, à des épreuves où je ne pourrais pas utiliser l'IA comme le baccalauréat. Le niveau d'exercice détermine si j'utilise l'IA ou...
Au contraire, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si un exercice est facile, je vois pas l'intérêt d'utiliser ChatGPT pour ça, surtout quand on connaît rien que les dégâts environnementaux que ça engendre. Quand j'utilise ChatGPT, c'est pour des exercices qui peuvent paraître un peu plus durs, que ce soit une dissertation, je vais lui demander de m'aider à trouver des plans pour qu'ensuite j'ai le réflexe un petit peu de savoir vers quel chemin je m'engage. Et pour moi, c'est mieux de l'utiliser pour quelque chose qui est plus compliqué.
Est-ce que vous utilisez d'autres logiciels que ChatGPT, soit pour vos cours, soit pour d'autres usages d'ailleurs? Je pense à DeepSeek.
Alors, moi, en tout cas, j'utilise depuis quelques temps, depuis 6 mois maintenant, Mistral à la place de ChatGPT. Et je vous invite à le faire parce que c'est une intelligence artificielle française et qui, honnêtement, a des très bonnes performances. Et j'ajouterais que Mistral, étant une entreprise française, elle s'est engagée, en tout cas, à respecter entièrement notre vie privée, contrairement à ChatGPT qui pompe littéralement nos discussions pour les analyser, améliorer les performances. En fait, il faut pas oublier que il y a énormément de concurrents à ChatGPT. Souvent, on dit ChatGPT comme si c'était synonyme de intelligence artificielle générative, alors que c'est qu'une parmi d'autres et qui, sur certains domaines, n'est même pas la plus performante aujourd'hui.
On parle beaucoup des élèves, mais est-ce que les professeurs utilisent eux-mêmes l'IA pour faire leurs cours, Madame Manteau?
Alors moi, j'ai jamais rencontré de collègue qui fasse son cours à partir de ChatGPT exclusivement. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie en général sur les manuels, sur le travail d'autres collègues et sur des auteurs qui sont vraiment spécialisés sur le sujet qu'on enseigne. Et on dispose déjà de beaucoup de supports fiables. C'est vrai que ChatGPT, finalement, produit en plus des réponses qui ne sont pas toujours justes. Je pense par exemple à une collègue de français qui me disait avoir lu sur ChatGPT, justement, que les fourberies de Scapin étaient écrites en 5 actes, alors qu'en réalité, il y en a 3. En revanche, je connais effectivement des collègues qui vérifient qu'aucun point de cours n'est oublié quand ils traitent une notion par l'intelligence artificielle ou qui font faire des exercices ou des QCM avec des niveaux de difficulté différents. J'ai même un collègue de sciences qui utilise ChatGPT pour que ChatGPT corrige l'orthographe de ses énoncés. À moi de vous poser une autre question. Est-ce que vous avez beaucoup d'enseignants qui vous font travailler avec ou sur l'intelligence artificielle en essayant d'éveiller votre esprit critique?
Franchement, il n'y a pas tant de professeurs que ça qui le font, mais j'ai connu un professeur d'EMC qui fait faire à ses élèves des fiches d'actualité, donc ils doivent faire un résumé et donner un avis critique sur un article qui date il y a à peine un mois. Et en fait, l'année dernière, il a fait faire les fiches d'actualité sur ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pour voir justement si l'avis critique pouvait passer comme s'il avait été rédigé par un élève.
Tu veux dire qu'il a comparé des fiches d'actualité qui avaient été générées par l'IA à des fiches d'actualité qui avaient été générées par des élèves ?
Oui.
Et il y avait des différences ?
C'est pas mieux, c'est mieux dit. Et ça, si on lit une fois comme ça, de façon un peu superficielle, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, ah oui, c'est mieux rédigé. Mais sur le fond, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut pas retirer aux élèves dans leur rédaction.
Est-ce que vous comprenez mieux certains de vos cours avec ChatGPT qu'en classe ?
Alors, moi, j'en ai fait l'expérience récemment parce que j'étais absent en cours d'allemand sur un cours de grammaire sur les propositions subordonnées relatives. Et j'ai demandé à ChatGPT, en l'occurrence à Mistral, de me demander de me l'expliquer. Et je pensais avoir tout compris. Donc, je vais au contrôle en ayant eu le cours généré par intelligence artificielle. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a énormément de cas que l'intelligence artificielle ne m'avait pas cité. Et j'ai eu une note très moyenne au contrôle. Et quand on a refait la leçon en classe, j'ai beaucoup mieux compris. Et en fait, l'expérience que j'en ai tirée, c'est que l'intelligence artificielle a un cours qui est beaucoup moins complet et beaucoup moins bien fait qu'un cours en classe.
Dans certaines matières où nous avons un système de classe inversée, je trouve ça très intéressant de poser les questions à l'intelligence artificielle pour aussi pouvoir demander à réexpliquer à l'infini jusqu'à ce qu'on ait compris, à reformuler ce que le professeur n'a pas toujours le temps de faire à cause d'un programme qui peut être assez serré dans le temps.
Oui, alors la classe inversée, c'est quand les élèves travaillent le cours à la maison et que des exercices sont faits en classe. Donc, ce que tu veux dire, c'est que quand tu lis le cours à la maison, comme le professeur n'est pas en face de toi, l'intelligence artificielle, finalement, va être ton interlocuteur ou ton interlocutrice pour avoir les réponses que tu te poses à ce moment-là.
Tout à fait.
Marin, est-ce que selon vous, l'IA va un jour se substituer aux enseignants, comme notamment une école de Phoenix aux États-Unis en a fait le pari et qui envisage dès septembre 2025 d'encadrer ses élèves du CM1 à la 4e par intelligence artificielle?
Alors oui, on peut très bien imaginer un monde où les professeurs sont remplacés par des intelligences artificielles, les médecins aussi, les pilotes d'avion, les chauffeurs de taxi et autres professions qui utilisent des tâches redondantes et qui sont facilement automatisables. Néanmoins, c'est quand même une vision de l'éducation qui est extrêmement réduite. Un enseignant, c'est pas juste quelqu'un qui transmet du savoir, c'est quelqu'un qui transmet du savoir avec une certaine façon, qui s'adapte à sa classe, qui détecte éventuellement si certains étudiants comprennent mieux certaines choses que d'autres, quelqu'un qui véhicule aussi un désir d'apprentissage, etc., à ce qu'une machine n'est pas du tout capable de faire. Donc oui, pour répondre à votre question, on peut très bien imaginer que les professeurs seront placés, mais ça n'est pas du tout souhaitable d'un point de vue politique et de société.
Et est-ce que les enseignants hésite désormais à donner des devoirs à la maison de peur qu'ils soient faits par l'intelligence artificielle?
Bah, je dirais que c'est pas tant le fait de donner tes devoirs à la maison qui pose problème, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Rodrigue, les devoirs à la maison ont pour but de permettre aux élèves de revoir leur cours à tête reposée, ou de faire des exercices pour mieux comprendre ce cours et bien l'assimiler. L'un des problèmes, selon moi, c'est de donner trop de devoirs à la maison ou dans un temps trop court. Parce que, comme les élèves, dans ce cas, manquent de temps, ils peuvent avoir la tentation de finalement se tourner vers l'intelligence artificielle plutôt que de faire travailler leur propre intelligence. L'autre problème, on l'a vu également, c'est de vouloir noter ses devoirs à la maison. Marin en a parlé un petit peu tout à l'heure, parce que il est difficile, voire impossible, de savoir à quel point l'élève a été aidé par ses parents, un autre élève, un professeur particulier, et maintenant par ChatGPT. Et j'ai appris, grâce à l'un d'entre vous d'ailleurs, que l'année dernière, j'avais attribué la meilleure note à un pastiche de la Bruyère à un élève qui avait en fait utilisé ChatGPT.
Marin, je parlais précédemment d'un biais anglo-saxon dans la rédaction de la dissertation. Est-ce qu'il y a d'autres biais dont nous, élèves, devrions nous méfier? Et quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui nous écoutent pour les repérer et les éviter?
Alors oui, effectivement, il existe de nombreux biais. Comme je le rappelais, les intelligences artificielles sont entraînées sur des bases de données, et ces bases de données, lorsqu'elles sont mal intégrées, elles reflètent les biais culturels, historiques et sociaux qui sont présents dans la société. Par exemple, pour les biais culturels, la majorité des contenus disponibles en ligne proviennent du monde anglo-saxon, ce qui oriente potentiellement les réponses de l'intelligence artificielle. D'une part, elles sont reflets du monde anglo-saxon, mais d'autre part aussi d'une vision purement occidentale de la société ou de l'histoire. Il y a d'autres biais, par exemple les biais historiques. Certains événements ou figures historiques vont être surreprésentés, alors que d'autres vont être moins documentés, voire même carrément ignorés, et cela va pouvoir aussi éventuellement influencer les réponses d'intelligence artificielle. Enfin, il y a aussi les biais de genre et de race et de classe, si ces données-là sont intégrées telles quelles, ça peut permettre à les intelligences artificielles de reproduire des stéréotypes et des préjugés. Et pire que ça, lorsque ces intelligences artificielles sont intégrées dans l'organisation de notre vie sociale, je pense par exemple à la gestion des aides sociales, par exemple, comme celle qu'il y a aux Pays-Bas, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Les Pays-Bas ont eu un problème avec une intelligence artificielle qui en fait s'occupait de gérer l'attribution des aides sociales à certaines personnes. Et en fait, on s'est rendu compte avec horreur qu'elle reproduisait des biais discriminants et qu'elle avait tendance à sortir même de l'aide sociale des femmes célibataires avec des enfants. Donc vraiment, ça peut avoir vraiment des conséquences dramatiques. Pour revenir sur la question des biais dans l'enseignement, on a plusieurs façons de les éviter. D'abord, il faut recompiler les sources. Il faut jamais se fier à une seule réponse fournie par l'intelligence artificielle. Il faut faire ses propres recherches. Il faut consulter plusieurs sites, ouvrages, avoir des points de vue différents des experts. Il faut varier ses recherches. Il faut encore avoir cette attitude d'aller chercher en utilisant plusieurs plateformes, plusieurs moteurs de recherche, en consultant aussi des médias internationaux et si possible lire des sources dans différentes langues. Et enfin, avoir encore un recul critique. Qui a produit ces données? À quelle époque? Dans quel contexte? Existe-t-il d'autres points de vue? Donc c'est vraiment tous les mécanismes d'autodéfense intellectuelle à mettre en place pour ne pas trop être avoir de mauvaises surprises ensuite quand on utilise des intelligences artificielles.
Par rapport à la base de données sur laquelle l'intelligence artificielle s'appuie, est-ce que elle est capable de distinguer ce qui relève des faits ou bien des opinions?
Alors non, l'IA ne comprend pas réellement si une information est un fait avéré ou une opinion, parce qu'en fait elle se base essentiellement sur des modèles statistiques qui lui permettent de générer des textes cohérents. Donc, elle peut donc comprendre des opinions, voire même des stéréotypes présents dans des données d'entraînement, sans toujours préciser et comprendre du coup qu'il s'agit d'un point de vue purement subjectif. Néanmoins, les programmeurs travaillent à intégrer des mécanismes de détection qui permettraient de contrebalancer ces imprécisions dans les résultats, mais il y a encore des efforts qui sont perfectibles.
L'intelligence artificielle s'adapte-t-elle à son utilisateur en lui fournissant des réponses qui correspondent à ses centres d'intérêt?
Alors cette question, à mon avis, elle est orientée par l'expérience qu'on a avec les réseaux sociaux, notamment ce qu'on appelle les bulles de filtre, où en fait vous êtes enfermé dans des contenus et dans des récits et narratifs qui vous parlent personnellement. Pourquoi? Parce qu'on a les réseaux sociaux ont identifié que vos données et votre utilisation vous portaient vers plus de choses, et donc elles ont tendance à vous fournir ces éléments pour vous permettre d'être capturé plus longtemps sur les sites. C'est ce qu'on appelle la bataille du temps de l'attention. c'est pas le cas des intelligences artificielles, pour l'exemple de ChatGPT ou de Mistral, qui fait fonctionnent différemment. Alors, elles vont peut-être adapter leurs réponses à vous en fonction de la manière dont vous avez posé de la question, mais non, elles vont pas avoir tendance à s'adapter à vos centres d'intérêt. Néanmoins, ça ne veut pas dire que si elles ne le font pas aujourd'hui, elles ne le feront pas demain. Et on peut très bien avoir des intelligences artificielles beaucoup plus personnalisées qui nous accompagnent à chaque moment de notre vie et qui, pour le coup, pourraient vous enfermer dans des éventuelles bulles algorithmiques d'intelligence artificielle. Et ça soulève des enjeux majeurs de protection de vie privée et de données personnelles aussi.
Pour rebondir sur ce sujet, est-ce qu'il peut y avoir des publicités déguisées dans les réponses données par ChatGPT ou les IA en général?
Pour l'instant, il n'y a pas de publicité cachée dans les réponses fournies par les intelligences artificielles. Néanmoins, il peut mentionner des marques ou des produits si cela est pertinent. Il peut aussi faire des recherches sur les moteurs de recherche et donc cela, ça reproduit encore le même schéma. Où est-ce qu'il va prendre des informations et là, en faisant remonter certains produits plutôt que d'autres, ben là aussi, ça biaise la réponse. Néanmoins, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, la question que vous posez aussi, c'est l'avenir des modèles économiques de ces intelligences artificielles et de ces grandes entreprises. Ces grandes entreprises perdent de l'argent. En réalité, actuellement, on investit énormément d'argent pour développer ces technologies, mais elles en rapportent peu. Il y a bien un moment, ce sont des entreprises capitalistes qui ont un besoin de gagner de l'argent. Donc, est-ce qu'on va assister à des intelligences artificielles qui vont intégrer dans leurs recommandations la présence de contenus sponsorisés? Et ça va soulever éventuellement des questions de transparence dans les recommandations. Donc, pour répondre clairement à votre question, non, mais peut-être dans un futur proche, oui.
Faut-il, selon vous, réglementer l'IA? Et est-il possible de le faire? Y a-t-il des logiciels plus sûrs que ChatGPT?
Alors là encore, la question de la réglementation aujourd'hui, elle est centrale. Avant de répondre, il y a souvent cette phrase qui circule, qui est de dire « les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule ». À mon avis, elle est fausse. C'est pas que l'Europe régule, c'est que l'Europe encadre le développement de ces technologies dans le respect de la démocratie et des principes démocratiques qui nous sont importants. Oui, il faut réguler l'intelligence artificielle parce qu'en fait, elle aura un impact majeur et elle a déjà un impact majeur sur des domaines très sensibles, l'enseignement, la santé, la sécurité, ce qui rend la régulation totalement indispensable. En termes de régulation, on a une qui va arriver en 2026, si je ne me trompe pas, qui est ce qu'on appelle l'IA Act, et qui vise à instaurer des règles strictes au sein de l'Union européenne avec des classements d'intelligence artificielle par niveau de risque. Alors, on aura faible, modéré, élevé et inacceptable. Et en fait, ça, pour le coup, ça permettra d'interdire certaines applications dangereuses, par exemple la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, et aussi imposer des règles de transparence et d'explicabilité des intelligences artificielles qui sont utilisées dans le secteur critique, et on pense notamment à la santé et à la justice. Ce choix-là, il est typiquement européen. D'autres pays ne le font pas. Les États-Unis, eux, ont plutôt tendance à avoir une approche très, très souple de ces questions, d'ouvrir en fait le jeu économique et de permettre à n'importe qui de développer ces intelligences artificielles. La Chine, elle, c'est un peu plus complexe parce qu'elle laissait quand même garder la main sur les intelligences artificielles qui sont déployées, notamment sur les intelligences artificielles génératives qui peuvent être utilisées pour produire des contenus qui sont peu appréciés par le pouvoir en place. Mais voilà, non, il faut réguler impérativement l'intelligence artificielle. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a quelques années, les mêmes défenseurs des intelligences artificielles nous expliquaient qu'il y avait un risque existentiel au déploiement des intelligences artificielles, notamment des intelligences artificielles supérieures qui menaçaient l'existence même de l'humanité. Alors, est-ce que ces gens-là, en cours de route, changeaient d'avis? Est-ce que ces gens-là nous mentaient au début ou nous mentent aujourd'hui en nous expliquant qu'il faut aller accélérer sur ces questions? Je ne sais pas, mais tout ça nous invite à avoir une certaine prudence dans le déploiement de ces intelligences artificielles.
Il n'y a pas un risque d'empêcher le développement des intelligences artificielles en Europe par ces régulations?
Si ces régulations sont trop contraignantes, effectivement, on peut avoir un impact négatif qui est de freiner les innovations, de pousser nos chercheurs à partir à l'étranger. Néanmoins, quand j'interviens et que je discute avec ces chercheurs, ils nous reprochent plus, par exemple, l'état négatif de la recherche fondamentale en France ou les problèmes de supercalculateurs, etc. C'est plutôt les arguments qui viennent en premier lieu plutôt que des arguments purement juridique. Ce qui nous reproche aussi, c'est l'instabilité de la régulation, en fait. Il faut que pour développer des technologies, c'est vrai qu'il faut avoir une vision au minimum à moyen terme.
Quel secteur professionnel risque d'être partiellement, voire totalement modifié par l'IA? Et est-ce que vous déconseilleriez aux élèves de s'engager dans certaines formations en raison d'une réduction drastique des postes à eux?
Vaste question à laquelle je n'ai pas de réponse définitive. Aujourd'hui, si les promesses qui sont faites par les grandes entreprises de la tech sont réelles, tous les secteurs et tous les métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle. De plus, on commence à avoir ce qu'on appelle les intelligences artificielles agentiques, c'est-à-dire les intelligences artificielles qui sont des micro-intelligences artificielles qui communiquent les unes entre elles et qui permettent d'automatiser des processus de fabrication en totalité. Par exemple, la construction d'une entreprise, elle peut rédiger les statuts juridiques, trouver les financements, créer le site internet, concevoir le business model. Donc en fait, ça pose vraiment d'énormes enjeux liés aux automatisations. Tous les métiers, pour l'instant, vont être impactés avec toujours cette question de prolétarisation, c'est-à-dire comment est-ce que les gens garderont une expertise métier qui leur permettra d'évoluer, de se projeter dans la vie. C'est un enjeu politique majeur, à mon avis, trop peu traité. Et sur la question de la formation intellectuelle, et ça me frappe énormément la maturité que j'ai entendue sur votre distance critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle, en réalité, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'on apprend purement pour trouver un métier un jour, ou est-ce qu'on apprend parce qu'on imagine que l'apprentissage fait partie de la construction intellectuelle d'un citoyen et qui évolue de manière normale dans une société? Donc non, je ne déconseille absolument pas de renoncer à certaines matières pour en choisir plutôt que d'autres. D'une part, ce sont des choix purement hasardeux. Faites et choisissez les futurs domaines que vous allez explorer avec votre envie personnelle de le faire, tout en gardant effectivement cette en tête qu'il y a une épée de Damoclès aussi qui est l'automatisation, mais qui à mon avis ne se régulera pas à notre échelle. Elle se régulera vraiment au niveau politique, avec des politiques qui disent on accepte de déployer l'automatisation dans ces secteurs-là plutôt que d'autres, parce que par exemple dans le domaine de l'éducation, on estime que civilisationnellement on n'admet pas qu'une machine s'occupe de manière à 100% de l'éducation d'un étudiant. Je rappelle aussi que il n'a besoin d'une montée en compétences. On a énormément besoin de recherche fondamentale. On va avoir de plus en plus besoin de recherche mathématique, de scientifique. Au contraire, on va vers une montée en compétences puisque toutes les professions intermédiaires vont être vraiment impactés par les process d'automatisation. Et ce qui pose aussi notre question, c'est est-ce qu'on risque pas d'avoir une société vraiment, pour le coup, à deux vitesses? Et par exemple, le recul critique que vous avez sur les intelligences artificielles est flagrant, c'est-à-dire, vous avez-vous une distance critique en disant j'utilise l'intelligence artificielle en ayant envie d'apprendre, je la maintiens à distance parce que je progresse intellectuellement, etc. Mais d'autres personnes de votre âge ne le font pas. Et elles délèguent complètement les résultats, donc même qu'il risque d'avoir vraiment une société à plusieurs vitesses, encore plus que celle qu'il y a aujourd'hui.
Est-ce que la montée en puissance de ChatGPT ne risque pas de conduire à une uniformisation de la pensée?
Non, si on accepte toujours se servir de ChatGPT comme ou d'une intelligence artificielle comme d'un challenger intellectuel et non comme quelque chose qui remplace les raisonnements et nos process de réflexion. Je prends toujours l'exemple de la citation de Steve Jobs. Il avait dit que l'informatique, c'était un vélo pour la tête, pour l'intelligence. L'intelligence artificielle, elle peut être utilisée de manière intelligente si elle est là pour nous challenger intellectuellement et nous muscler neurologiquement. Et ça fait partie d'une discipline personnelle qu'on doit s'imposer. Microsoft vient de rendre une étude où en fait ils se rendent compte qu'on a un énorme problème. Les personnes qui délèguent massivement des tâches cognitives aux intelligences artificielles perdent en plasticité cérébrale, avec là aussi des questions éthiques et de santé publique majeure, c'est-à-dire est-ce que des jeunes qui aujourd'hui, qui ont 20 ans, qui utilisent massivement les intelligences artificielles, qui vont progresser et monter en compétences, seront encore capables à 50 ans d'échapper à une dégénérescence neurologique type Alzheimer? On ne le sait pas encore. Mais il y a certains scientifiques qui sonnent déjà la sonnette d'alarme sur ces sujets-là.
Pour parler du risque démocratique, peut-on manipuler l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'au contraire, les données exploitées par l'intelligence artificielle sont trop importantes pour être manipulées? On a vu notamment DeepSeek, donc l'IA chinoise, qui ne pouvait pas répondre à des questions qui portaient sur Tiananmen ou sur Winnie l'ourson.
Oui, il est tout à fait possible de manipuler les données qui sont collectées par les intelligences artificielles, d'une part en influençant l'Internet sur lesquels elles sont collectées. Ça, c'est la première chose. D'autre part, on peut les contaminer. On peut faire en sorte qu'une donnée véhicule des informations cachées qui seront ensuite intégrées dans par l'intelligence artificielle pour le faire reproduire des schémas, par exemple, discriminants. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir des manipulations de grande ampleur. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, c'est un grand enjeu de défense et de souveraineté. Le jour où on aura massivement déployé les intelligences artificielles dans tous les secteurs de notre économie, de la santé, l'éducation, la sécurité, etc., si c'est les données qui sont intégrées dans ces intelligences artificielles sont compromises, il y a de véritables risques de sécurité existentielle.
Pour conclure, l'IA participe-t-elle au progrès de l'homme ou agit-elle au détriment de celui-ci ? Est-ce que l'IA peut agir indépendamment de l'homme, voire le détruire ?
Alors, est-ce que l'intelligence artificielle participe à l'amélioration de l'homme ou à sa destruction ? En fait, c'est l'enjeu central lié autour de la technique. Science sans conscience n'est ruine de l'âme. Si vous avez des intelligences artificielles dont le seul but est de vous pousser à consommer, passer du temps devant les écrans et de vous manipuler cognitivement, pour que vous puissiez croire en des biais cognitifs extrêmement forts ou des faits alternatifs, oui, c'est tout à fait possible qu'elles nuisent à l'humanité. Au contraire, les intelligences artificielles peuvent faire énormément progresser l'humanité en repoussant des limites scientifiques qui sont aujourd'hui qui étaient établies parce qu'on n'avait pas assez de puissance de calcul pour dépasser ces choses-là, en permettant de créer des ponts entre les sociétés, en permettant aux gens de se rencontrer, en permettant aussi de manière préventive de détecter des dangers environnementaux avant qu'ils aient lieu. Tout cela est profondément complexe, dual, et c'est là encore l'importance et l'intérêt de la politique, c'est-à-dire que les politiques et la société doivent se préoccuper de ces choix-là et de ces déploiements d'intelligence artificielle. En choisissant, on doit choisir démocratiquement de savoir là où on veut les déployer, pour quelles raisons, pourquoi faire, etc. Donc c'est vraiment des enjeux centraux qu'il va falloir se poser.
En termes d'écologie, est-ce que le fait de d'avoir recours à l'intelligence artificielle de manière massive ne risque pas de justement déréguler totalement le climat et de nous conduire à notre perte ?
Alors, effectivement, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle peut avoir un double impact. D'une part, elle peut aggraver le changement climatique. Effectivement, on l'a dit, les intelligences artificielles génératives utilisent énormément d'électricité, énormément d'eau pour refroidir les data centers. Donc ça, ce sont vraiment des enjeux majeurs. Et les ingénieurs travaillent sur des modèles beaucoup plus économes en énergie, en données, etc., pour limiter les effets de bord négatifs. Mais il y a aussi un aspect positif dans l'intelligence artificielle dans l'environnement. Par exemple, sur l'adaptabilité des agriculteurs au changement climatique, elles peuvent avoir des modèles préventifs de prédiction du climat à moyen, à court, moyen et long terme, qui permettent en fait de éventuellement adapter les récoltes, enfin adapter les semences en fonction des risques climatiques qui sont liés, voire même de prédire avant qu'ils aient lieu les feux de forêt. Donc là encore, on reste vraiment avec cette technologie duale qui peut avoir des impacts extrêmement positifs et des impacts extrêmement négatifs. Et là encore, je le rappelle, c'est un débat de société majeur. Il faut qu'on sache pourquoi on les développe, pourquoi est-ce qu'on les déploie, comment est-ce qu'on les déploie et quels sont leurs coûts à court, moyen et long terme.
Avant de conclure cette émission, est-ce que, Marin, vous avez des éléments à transmettre aux élèves qui vous semblent essentiels ?
Des éléments qui me semblent essentiels, oui, d'une part, soyez curieux sur ces sujets, allez lire les livres qui sont publiés. Il y a une littérature extrêmement riche sur ces questions en France, mais aussi dans le monde anglo-saxon. Remettez toujours en question les discours qui sont tenus par les grands dirigeants de la tech, qui restent des discours commerciaux et qui vous véhiculent un projet de société pour tout simplement vous faire consommer leurs produits. C'est très important d'avoir ce recul critique. Vraiment développer cette logique d'autodéfense intellectuelle en ayant du recul sur les informations qui vous sont données. Et aussi, vous avez la chance, typiquement sur le genre de conversation, dans votre génération, d'avoir, en fait, si vous voulez, d'être familiarisé à ces questions avant les autres. Autour de cette conversation, c'est déjà posé des questions d'impact, d'éthique, etc. Et je dirais même que vous avez quasiment une sorte de devoir dans votre vie future de vous intéresser à ces questions. Il n'y a pas que le changement climatique qui est un enjeu du siècle majeur, il y a aussi cet enjeu, la révolution technologique est un enjeu majeur et il faut vraiment que vous ayez une quête de savoir active et non passive.
Eh bien, Marin, nous vous remercions énormément d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur la nature, les dangers et les enjeux de l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes conseiller en affaires publiques et en stratégie et enseignant. Et j'espère que votre éclairage aura permis d'aider les auditeurs à mieux comprendre ce vaste domaine. Nous attendons vos commentaires sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt.
À bientôt.